Bon, rebonjour, frères et sœurs. Nous allons commencer par la prière. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole, la Bible qui nous est chère, qui est à portée de tous aujourd'hui. Nous pouvons l'avoir papier, même électronique sur nos téléphones. Merci pour ces beaux chants aussi qui nous rappellent les vérités qui proviennent de ta parole. Parle-nous ce matin par ton Saint-Esprit. Touche les cœurs. Rappelle-nous ces vérités importantes de ton Évangile, cette bonne nouvelle du salut en Jésus. Et glorifie-toi à travers cette étude, au nom de Jésus. Amen. Donc, dans notre étude de l'Épître aux Romains, dans les dernières semaines, on a vu des vérités importantes, des doctrines qui sont chères aux chrétiens évangéliques. On a vu d'abord la mauvaise nouvelle, mais c'est une vérité. Nous devons être réalistes que tous les hommes sur la terre ont péché. Tous ont péché. Et donc, il n'y en a aucun qui est juste par ses œuvres, par ses actions. Même si Dieu pesait sur la balance les bonnes et les mauvaises actions de chaque être humain, finalement, il trouverait tout le monde comme étant des injustes. Et tous méritent la condamnation éternelle, la punition de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils unique, sur terre, comme on l'a chanté ce matin dans les chants, pour mourir pour les hommes, même on peut dire à la place des hommes, pour que tous ceux qui croient soient justifiés, qu'ils soient déclarés juste, alors qu'ils sont injustes, mais s'ils mettent leur foi dans ce sacrifice, ils sont déclarés justes, innocents, et qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Donc, on est sauvé par la foi et non par les œuvres. Et l'exemple d'Abraham, on l'a vu la semaine passée avec Pasteur Dominique, c'est un bon exemple parce qu'il est clairement dit qu'il a cru en Dieu et il a été justifié, donc par sa foi. Et ça, c'est passé même avant que la loi soit donnée. Même avant qu'ils soient circoncis. Donc, c'était des arguments forts pour les Juifs qui entendaient Paul leur dire cela, parce qu'eux, ils croyaient qu'ils étaient sauvés parce qu'ils obéissaient à la loi, et que puisqu'ils avaient la loi, automatiquement, ils étaient du bon côté, ils étaient justes. Et s'ils étaient circoncis, ça c'était comme la chose absolument nécessaire d'être circoncis pour être considéré juste. Mais Abraham, leur père, a été déclaré juste alors qu'il n'était même pas encore circoncis. Le point de Paul, c'est que c'était par la foi. Ça a toujours été par la foi qu'on est justifié. Et Paul va continuer à parler d'Abraham. Donc, lisons ensemble Romains, chapitre 4. Donc, l'Épître aux Romains dans le Nouveau Testament. Chapitre 4, à partir du verset 13. Romains 4, 13. « En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi, ou qui provient de la foi. » Si c'est par la loi qu'on est héritier, alors la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père à tous devant Dieu, en qui il a cru. Lui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance ou postérité. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans. Et le sein maternel de Sarah, qui était déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « cela lui fut compté ». C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen. J'aimerais qu'on fasse l'exercice de retourner dans Genèse pour lire quelques versets qui sont ici, dont on fait allusion, dans Genèse, chapitre 12. Donc, ça relate On va voir quelques occasions où Dieu s'est adressé directement à Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, donc à cette époque-là, il s'appelait encore Abraham, c'est avant que Dieu change son nom. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran, et Abraham prit sa femme, Saraï, son neveu, Lot, avec tous ses biens, tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Donc, on voit vraiment que Dieu intervient dans la vie d'Abraham, il le choisit. Il lui apparaît, puis on doit comprendre que probablement que c'était la première fois que Dieu s'adressait à Abraham. Il se fait connaître à lui, il dit « Je t'ai choisi, tu vas quitter ta famille, ta patrie, la maison de ton père, où tu es déjà installé. Tu vas quitter tout ça pour aller dans un pays que je vais te montrer. » Un pays inconnu encore d'Abraham. Une chose intéressante, c'est qu'il n'y a absolument rien ici qui indique pourquoi que Dieu a fait ce choix. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Abraham plutôt qu'un autre? Bon, Dieu a ses raisons. Mais on sait, d'après la Bible, que ce n'est pas parce qu'Abraham était déjà un serviteur fidèle de l'Éternel. Josué va le confirmer plus tard dans l'histoire, dans Josué 24, qu'il dit, Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, dont vos ancêtres, Terah, Abraham et Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. Mais Dieu dit, « J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui ai fait parcourir le pays de Canaan, j'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. » Donc, c'est vraiment dans le choix souverain de Dieu qu'Abraham a été élu. Et bien sûr, Dieu va travailler son cœur, puis il va faire d'Abraham un fidèle serviteur. Mais quand il l'a choisi, il n'était même pas encore un adorateur de l'Éternel. Et Dieu lui promet, alors qu'Abraham n'a rien fait encore pour mériter cette belle promesse, qu'il sera béni, qu'il sera honoré, et même que sa descendance va devenir une grande nation. On l'a vu ce matin dans le cours, que d'avoir des enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. En avoir son carquois rempli de flèches, c'est une bénédiction de Dieu, et Dieu promet à Abraham qu'il va avoir une grande descendance, une grande nation. Même il lui annonce en plus que les autres familles, sur cette terre, les autres familles vont être bénies si elles sont de son côté. Donc, si les familles bénissent Abraham, donc elles lui souhaitent du bien, elles sont de son côté, elles vont être bénies en retour. Si jamais des gens s'opposent à Abraham et à sa descendance, elles vont être maudites. Donc, Dieu assure sa protection, qu'il va chérir Abraham. Et effectivement, on voit déjà dans la Genèse que plusieurs familles ont été bénies par la présence d'Abraham. À côtoyer le serviteur de Dieu, plusieurs ont été bénis. Il y en a d'autres qui ont été maudits parce qu'ils ont osé affronter Abraham et sa famille. On se souvient des rois qui avaient conquis, qui avaient remporté une grande victoire, même contre les rois de Sodome et Gomorre, et qui avaient capturé des habitants. Et ils avaient capturé le neveu, Lot, le neveu d'Abraham. Et ils sont partis. Mais c'était des rois victorieux qui venaient de battre plusieurs royaumes, là. Donc, ils étaient puissants avec leur armée. Et Abraham est parti avec ses serviteurs, ils les ont rattrapés, ils les ont battus, ils ont rapporté le butin, ils ont rapporté sain et sauf Lot. C'était vraiment surnaturel, là. Les historiens même ne pourraient pas croire à une histoire comme ça. Mais c'est Dieu qui est intervenu en faveur d'Abraham et contre ses ennemis. Les Hittites vont dire plus tard, lorsque Abraham va vouloir acheter une caverne pour ensevelir, enterrer sa femme qui est décédée, les Hittites vont dire, « Mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » Donc, tous reconnaissaient que Abraham était sous la bénédiction de Dieu. Abimélec même, il s'est résolu finalement à faire une alliance avec le fils d'Abraham, avec Isaac. Il a fait alliance parce qu'il voyait bien que Isaac était béni. Tous voyaient combien Dieu bénissait Isaac. Ils disaient, okay, on va faire alliance avec toi. À l'époque du petit-fils d'Abraham, c'est Jacob. Lorsque Jacob est allé habiter pendant un temps, plusieurs années, chez Laban, Laban, même ses affaires fructifiaient à cause de Jacob. Et Laban en témoigne lui-même dans Genèse 30, il dit, « Je pressens que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Donc, on voit un accomplissement quand même à court terme là, de cette promesse de Dieu. Si on va dans Genèse 15 maintenant, verset 1. Donc, quelques pages plus loin, Genèse 15, verset 1. « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. » En ces termes, « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mais Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu? Je vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Bon, » ce n'était pas son fils. Et il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa, la parole est dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et il le mena dehors, il dit, « Contemple le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Abraham crut en l'Éternel, qu'il le lui compta comme justice, ou qu'il le lui imputa à justice. Donc, Abraham a cru, alors qu'il était à un âge très avancé, sans enfant, sans savoir comment Dieu allait pouvoir accomplir cette promesse-là. Et Dieu a vu la foi d'Abraham, et il l'a compté, il l'a mis à son compte, au compte d'Abraham, comme étant une action de justice, comme étant ce qui caractérise Abraham. Et à partir de ce moment-là, Dieu a vu Abraham comme un juste. Pas parce qu'il avait fait une quelconque action, mais simplement parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Il a été justifié, déclaré juste. Chapitre 22 maintenant, Genèse 22. Chapitre 22, à partir du verset 15. 22, 15. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois. Il s'appelait Abraham, rendu là. Du ciel. Et il dit, « Je te jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce qu'il venait d'accepter de sacrifier son fils, mais c'était seulement un test que Dieu lui faisait passer. Il ne l'a pas laissé faire périr son fils. Mais c'est parce que tu as fait cela que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance sera le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. » Donc, ici, par cette action d'obéissance où l'Éternel avait demandé à Abraham d'aller jusqu'à sacrifier son fils, mais heureusement, l'ange est intervenu pour qu'il ne le fasse pas, mais Abraham, par cette œuvre-là, il a démontré qu'il avait la foi. Mais il avait déjà la foi avant, il avait déjà été justifié, mais ici, c'est une occasion que Dieu lui a donnée pour prouver, pour démontrer sa foi envers Dieu. Et on voit ici que Dieu renouvelle sa promesse qu'il lui a déjà faite, mais en l'élargissant. Ce n'est pas seulement les familles qui seront bénies, c'est des nations entières qui seront bénies s'ils sont du côté de sa descendance. Donc, sa descendance va être très nombreuse, et les autres peuples, s'ils sont du côté de son peuple, qui va devenir Israël, ils seront bénis. Donc, on voit qu'il y a un accomplissement qui est encore plus grand que seulement les familles qui sont au contact de la famille immédiate d'Abraham. On voit d'ailleurs que ça s'est accompli peu de temps après, un des fils de Jacob, Joseph, va être vendu par ses frères, il va aller en Égypte, et l'Égypte, finalement, va être grandement bénie de la présence de Joseph parmi eux, et Jacob et ses autres fils viennent habiter chez eux, et les Hébreux habitent pendant 400 ans chez les Égyptiens. Mais les Égyptiens ont été grandement bénis, ils ont pu survivre à une grande famine de 7 ans. Même les autres nations autour pouvaient venir acheter du blé, et finalement ont été bénis indirectement par la présence des Hébreux. Plus tard, lorsque les Hébreux vont enfin devenir propriétaires de la terre de Canaan, qui va devenir le pays d'Israël, mais lorsqu'ils seront fidèles à Dieu et qu'ils seront bénis, les autres nations autour, s'ils sont en paix avec Israël, vont aussi être bénis. À l'époque de Pharaon, de Salomon, On dirait que je bégaye un peu ce matin. Mais à l'époque de Salomon, où est-ce que la richesse et la prospérité d'Israël étaient à son summum, les autres nations autour aussi étaient bénies en faisant commerce avec lui. Donc vraiment, les nations ont été bénies par l'entremise d'Israël et lorsque des nations osaient les affronter, elles en subissaient les conséquences. Bien sûr, c'est lorsque Israël était fidèle. Donc, ce n'est pas seulement des petites familles ou des maisons, c'est des grandes familles, des nations entières qui sont bénies. Maintenant, si on recule un peu, un dernier passage qu'on va voir dans Genèse, c'est chapitre 17. Chapitre 17, verset 1. Toujours dans Genèse 17, 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Comme on l'a chanté ce matin, hein, Dieu Tout-Puissant. « Marche devant ma face, sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi, je te multiplierai à l'extrême. » Et Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla en ces termes. « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. » Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations, des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Donc, non seulement des nations vont être bénies, mais Dieu annonce d'une manière un peu énigmatique que des nations vont sortir d'Abraham, qu'il va être lui-même le père d'une foule de nations. Ici, c'est un peu plus difficile de voir un accomplissement comme littéral dans l'Ancien Testament. Mais bon, on peut y réfléchir, mais c'est sûr que la descendance d'Israël s'est multipliée, là. Mais de là à dire qu'Abraham lui-même est le père d'une foule de nations. Mais on se rend compte que finalement, ce qui est promis à Abraham, c'est plus même que l'héritage de seulement le pays de Canaan, puisque les nations de la terre, cette promesse-là semble s'étendre à toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est comme si toute la terre était promise en héritage à Abraham, d'une façon qui demeure mystérieuse dans l'Ancien Testament. Comment ça peut se produire une telle chose? Mais c'est seulement à la venue de Jésus-Christ que là, finalement, on a la révélation de comment Dieu accomplit cette promesse-là. Mais on a vu qu'il l'a accompli à plusieurs reprises, de manière de plus en plus profonde et plus grande, mais c'est en Jésus-Christ que finalement, elle prend toute son ampleur. C'est en Jésus que se trouve l'accomplissement total, final de cette prophétie, de cette promesse. Par tous ceux qui ont la foi en Jésus, par Jésus, par la foi en lui, nous sommes justifiés, comme on l'a vu dans les passages précédents, de la même manière qu'Abraham a été justifié par la foi, et on est identifié à lui. Dieu nous voit comme la descendance d'Abraham et héritiers. Les héritiers sont ceux qui héritent de ce que les pères ont eu de leur vivant. On devient les héritiers de ce qui a déjà été promis à Abraham. Mais tous ceux qui ont la foi sont considérés enfants d'Abraham, fils et filles d'Abraham, spirituels finalement. C'est pour ça que Paul va jusqu'à dire dans Romains, on peut retourner maintenant dans Romains 4, que Abraham est notre père à tous, les Juifs comme les païens, les circoncis comme les incirconcis. Mais il l'a bien rappelé, on l'a vu dans le passage précédent, la semaine passée, que ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on est automatiquement un vrai descendant d'Abraham. Finalement, le critère qui fait en sorte qu'on soit un enfant d'Abraham ou non, c'est la foi. Et c'est le même principe, finalement, qui s'applique aux autres grandes promesses que l'on voit dans l'Ancien Testament. On pourrait en passer en revue pendant toute la journée, mais on peut se rappeler, par exemple, d'une promesse qui a été faite à David, le roi David, où Dieu... par l'entremise du prophète, s'est adressé à David et lui a promis, on voit ça dans Samuel, « Il y aura toujours un de tes descendants, de ta lignée qui sera sur le trône. Jamais le trône d'Israël va sortir de ta famille. C'est un de tes descendants qui sera sur le trône. » Plus tard, lorsqu'on lit le même récit dans Chroniques, la promesse est faite d'une manière plus large ou différente. Dieu va promettre à David qu'un jour, un de ses descendants en particulier sera pour toujours sur le trône. C'est un peu différent, là. C'est pas juste qu'il y aura toujours un de ses descendants sur le trône. Un jour, l'un de ses descendants, l'un des fils de David, sera sur le trône pour l'éternité. Ça, on doit avouer que c'est un peu difficile à comprendre quand on se place dans le contexte de l'Ancien Testament. Et les prophètes vont reprendre cette promesse-là pour dire qu'un jour, le nouveau David va venir. Wow! Et c'est seulement lorsque Jésus-Christ est venu qu'enfin on comprend comment c'est possible qu'un descendant de David règne pour l'éternité sur le trône. C'est parce que ce roi est divin. C'est le Seigneur Dieu lui-même. C'est le Fils de Dieu qui est fils de David en même temps qu'être fils de Dieu et qui règne sur le trône pour l'éternité. Christ est roi, comme on l'a chanté ce matin. C'est un autre exemple d'une promesse qui s'accomplit en Jésus. De façon globale, toutes les promesses, toutes les prophéties s'accomplissent en Jésus, en Christ. Et on apprend dans le livre de Romains, dans l'Épître aux Romains, que la foi vraiment nous identifie à Abraham, fait de nous, les serviteurs d'Abraham, les héritiers. On l'a chanté même ce matin dans la Christéroi, c'est bon, presque tout le contenu du message se trouve dans nos chants. Qu'un jour, les chrétiens du monde vont hériter de la terre. Mais en fait, nous héritons du monde entier si nous sommes enfants d'Abraham, des fils et filles spirituels. Bien sûr, le monde ne va pas rester dans l'état où il est présentement, là, avec les guerres, avec l'injustice. Un jour, Dieu va le purifier par la force du bras de son Fils Jésus, et il va faire le ménage. Il va même, c'est même montré comme une destruction. Là. Le monde va passer par le feu pour être recréé. C'est une nouvelle terre qui va être l'accomplissement final de cette promesse-là, et où le peuple de Dieu va pouvoir posséder ce royaume-là. Chaque enfant d'Abraham va être un héritier, un citoyen de ce royaume terrestre et très réel. Donc, le royaume va enfin appartenir pleinement au peuple de Dieu. Mais seulement les enfants spirituels d'Abraham vont avoir leur place. Donc, dans Romains 4, si on s'attarde aux versets 14 et 15, on lit ici, c'est par la loi qu'on est héritier, mais la foi est vaine. Et la promesse est annulée, car la loi produit la colère. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a même pas de transgression. Donc ici, Paul rappelle, si c'est par la foi, ce n'est pas par la loi. Non, ce n'est pas par l'obéissance au commandement de Dieu qu'on devient héritier. Que cette promesse, finalement, nous inclut. Ce n'est pas par l'obéissance au commandement. On peut avoir tendance à croire qu'on est juste devant Dieu, par exemple, si on est chrétien depuis longue date. Là. Certains même sont nés dans une famille chrétienne, ont grandi à l'Église, connaissent les récits de la Bible, ont déjà entendu ce récit-là, l'ont peut-être déjà lu, le récit d'Abraham, et peuvent venir à croire que puisqu'ils sont chrétiens depuis leur naissance, et parce qu'ils s'efforcent de faire ce qui plaît à Dieu, et qu'ils lui sont fidèles, qu'ils vont être trouvés justes. Et Paul rappelle ici, c'est pas comme ça. Si c'était par notre fidélité à accomplir les commandements de Dieu, on serait tous mal pris. Et finalement, la promesse de Dieu, il l'aurait fait pour rien. Parce que personne, lorsqu'on évalue s'il est fidèle ou pas à obéir aux commandements de Dieu, personne n'est trouvé juste. Tous ont, un jour ou l'autre, enfreint. Et même, très souvent, enfreint les commandements de Dieu. Il suffit de relire le sermon sur la montagne là, que Jésus a fait et ses prescriptions pour voir que on n'est pas du niveau des exigences que Dieu demande. Donc, si c'était par l'obéissance à ses commandements qu'on est trouvé juste, on serait tous perdus. Et Dieu aurait promis cela pour rien. Mais Dieu ne fait jamais une promesse pour rien. Donc, c'est pour ça qu'il a établi que les héritiers vont l'être par sa grâce. C'est lui qui donne. Et c'est produit uniquement par la foi dans sa promesse. Et si c'était par la loi, ceux qui n'appartenaient pas à Israël à l'époque où Paul a écrit cela auraient été automatiquement disqualifiés puisque Dieu avait donné sa loi à Israël. Bon, bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu voulait sauver de toutes les nations. Tous ceux qui ont la foi dans ses promesses sont sauvés, sont justifiés. Donc, c'est bien par la foi qu'on hérite de la vie éternelle pour que ce soit une grâce de Dieu. Donc, on voit tout de suite que la manière d'être justifié met l'accent sur Dieu, sur l'œuvre que Dieu a faite, et non sur nous. C'est pour ça que c'est bon, même la table du Seigneur, le repas du Seigneur que Jésus a institué, on se rappelle fréquemment, ici on le célèbre une fois par mois au moins. Cette table-là ne sert pas à se rappeler à quel point on a été fidèle à Dieu, à quel point on obéit à ses commandements. C'est pour se rappeler ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait. Dans tout le principe, le processus pour que nous soyons justifiés rend gloire à Dieu. C'est vraiment une pure grâce si nous pouvons être sauvés. D'ailleurs, ça c'était le premier point concernant la foi, c'est que c'est par la foi qu'on est héritier de la promesse faite à Abraham, qu'on devient héritier de la possession du monde et qu'on hérite de la vie éternelle. Mais il y a un deuxième point concernant la foi, c'est que celui qui a la foi montre qu'il a une grande estime, une haute estime de Dieu. On va aller au verset 19 et 20, toujours dans Romains 4. « Sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant. » On parle d'Abraham ici, parce qu'il avait près de 100 ans. Et il considéra le sein maternel de Sarah, qui était déjà atteint par la mort. Donc, il n'y avait plus de production d'ovules, on l'a vu ce matin dans le cours. Mais, face à la promesse de Dieu, il ne douta point, par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Donc, Abraham, ce n'est pas parce que tout à coup, il est devenu aveugle, là. Il était conscient là, que c'était humainement impossible qu'il ait un fils. Il était conscient de cela. Physiquement, c'était impossible. Il était près de la mort et on dit même que le ventre ou le sein de Sarah était déjà atteint par la mort. Donc, c'était terminé. Mais il a cru quand même à la parole de Dieu, sans douter. Je ne sais pas si ces mots se trouvent dans toutes les versions, mais je crois que oui. Il a cru vraiment sans douter. C'est une des qualités de la vraie foi authentique, sincère. C'est qu'on ne doute pas. Là. On prend Dieu sur parole. Et en faisant cela, il a glorifié Dieu. Ça honore Dieu quand on croit à ses promesses. Lorsqu'on doute, si quelqu'un met en doute la parole de Dieu, est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Ou est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu peut vraiment changer quoi que ce soit? On déshonore Dieu. C'est vraiment un des péchés graves là, contre le Créateur. Mais ici, Abraham, simplement en croyant Dieu sur parole, il a glorifié son Dieu par sa foi. Donc, la foi glorifie le Créateur. Le contraire, le doute, l'incrédulité déshonore Dieu. Mais comment Abraham a pu croire cette chose-là qui est impossible? Parce qu'il connaissait son Dieu. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il l'a connu, mais en tout cas, il savait une chose, c'est que Dieu est le Créateur. Le Dieu Tout-Puissant. Et il était pleinement convaincu, au verset 21, qu'on lit qu'il était pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, et il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est comme ça que Dieu s'est présenté à lui. On l'a lu tantôt, dans Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. » C'est la première fois que ce mot-là, Shaddai, est utilisé dans la Bible. Donc, c'est à Abraham en premier que Dieu a dit cela. Je suis le Tout-Puissant. Tout-Puissant, ça veut dire capable de faire des grandes choses? Oui, certainement, mais ça veut dire capable de faire tout. Omnipotent. Il n'y a absolument rien que Dieu veut faire qu'il n'est incapable de faire. Dieu est le Tout-Puissant. Parce qu'il est le Créateur. Donc, il peut forcément faire tout. Il n'est pas limité par les lois de la physique. C'est lui qui a créé les lois de la physique. Et donc, il peut les manipuler comme il veut. Il peut redonner la vie au corps de Sarah. Il peut rendre ce couple fertile alors qu'ils sont dans un âge très avancé. Ils ont vécu encore de nombreuses années après même. Il a renouvelé leur corps. Et de toute façon, est-ce que c'est étonnant de la part de Dieu? C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui a créé. C'est lui qui donne le souffle de vie. Si nous sommes tous vivants aujourd'hui, ce matin-là, c'est parce que Dieu le veut. C'est lui qui permet qu'on ait la respiration. C'est lui qui a fait en sorte qu'on naisse un jour. Moi, ça ne fait pas tellement longtemps de cela, là, mais Mauricio, ça... Mais c'est Dieu qui a nos vies à chacun d'entre nous entre ses mains. Il est le Créateur. Et le verset 17 aussi donne une précision importante. On s'y réfère souvent en théologie. Dieu dit, « Je t'ai établi d'un père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu en qui il a cru, lui qui donne la vie aux morts, il peut ressusciter comme il peut faire naître, et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ou dans d'autres versions, comment on dit dans Louis II? Oui, ils appellent les choses qui ne sont point, qui n'existent pas, comme si elles l'étaient. En fait, il suffit à Dieu de déclarer qu'une chose doit exister et elle existe. C'est la création ex nihilo. Nous, on peut former des choses à partir de la matière, et Dieu le fait aussi, mais Dieu peut former à partir de rien, à partir du néant. C'est le seul qui porte vraiment le titre, correctement, le titre de créateur. Nous, on imite le créateur par nos créations, mais le seul qui crée pour vrai, c'est Dieu, à partir de rien. Donc, qu'est-ce que c'était pour lui que de faire naître Isaac, qu'Isaac soit conçu dans le ventre de Sarah? Lui, il a créé l'univers à partir de rien. Avant que l'univers existe, il y avait seulement Dieu qui existait pour toute l'éternité. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment Dieu a procédé pour créer l'univers. Il a dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Donc, la parole de Dieu est créatrice. En fait, il est lui-même la parole créatrice. Est-ce que vous croyez que Dieu est le créateur? Oui? Amen. Mais alors, croyez en ses promesses. Si on croit vraiment que Dieu est le Créateur Tout-Puissant, on doit croire ce qu'il nous dit sur parole, sans même demander de preuves, sans douter. Quand un chrétien commence à douter, c'est habituellement parce qu'il est en train d'oublier qui est Dieu. Il est en train d'oublier ses qualités, même si c'est un instant. Quand le doute survient, parce qu'on est en train de perdre de vue qui nous a fait telle ou telle promesse. C'est pour ça que la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible est si importante. Il ne suffit pas de l'avoir lu déjà une fois et d'avoir entré ça dans notre mémoire. Il s'agit de se le rappeler, de se rafraîchir, même d'approfondir notre connaissance de qui est Dieu. Donc, lire la Bible régulièrement, c'est essentiel pour conserver la foi. Et prier Dieu, c'est essentiel parce qu'on exprime à Dieu ses qualités, on le loue pour qui il est et on se souvient même de qui il est. Et en voyant tous les exemples de fidélité de Dieu dans la Bible, on devient convaincu que Dieu est fidèle. Ça s'ajoute comme à notre bagage d'expérience et ça solidifie notre foi. Donc, notre foi ne sera solide que si on a une bonne compréhension de qui est Dieu. Donc, on a vu que c'est par la foi qu'on est justifié. On devient les héritiers des promesses de Dieu en tant qu'enfant d'Abraham, comme Abraham. Et deuxièmement, la foi, qu'est-ce que c'est? C'est de croire à la parole de Dieu sans douter. Croire aux paroles du Tout-Puissant. Maintenant, il y a une question qui se pose là. C'est quoi au juste la promesse de Dieu à laquelle il faut croire pour que nous, aujourd'hui, en 2022, on puisse être déclarés justes? C'est quoi cette promesse-là à laquelle il faut croire pour que Dieu considère qu'on est juste, innocent? Versets 23 à 25 le dit, donc à la fin du chapitre 4. Donc, ce n'est pas seulement à cause d'Abraham qu'il a été écrit « cela lui fut compté ». Cela lui fut imputé, sa foi. C'est aussi à cause de nous. Nous qui croyons en celui, en Dieu, qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Donc, il faut croire, finalement, la promesse, là, c'est que Dieu a mis un plan, il l'a concrétisé, il a accompli même toutes les promesses de l'Ancien Testament, là, et son plan pour nous sauver, c'est qu'il a envoyé son Fils sur terre, il a été livré pour nous. On a chanté tantôt dans le chant « Christ est roi » que le Fils de Dieu est venu sur terre, mais les hommes l'ont rejeté. C'est vrai, mais c'était le plan de Dieu que ça se passe comme ça. C'était pas un plan B, Dieu n'a pas eu à réagir. C'était le plan de Dieu que son Fils soit rejeté, qu'il soit mis à mort. Donc, c'est le Père lui-même, finalement, qui a sacrifié son Fils pour payer la dette de nos péchés. Dieu voyait qu'il n'y avait aucun juste sur la terre. Il dit, je vais faire grâce à l'humanité, sinon ils s'en vont tous en enfer. Et il a payé le prix le plus élevé qui existe, la vie de son propre fils. Mais le plan de Dieu, ce n'était pas seulement que son fils meure. Ça, c'était pour payer pour nos péchés, mais il a aussi ressuscité. Puis en lui, finalement, Dieu recrée tout l'univers. Il est la tête, là. Il est le premier-né de la nouvelle création, le chef du royaume de Dieu, le roi. Donc, on doit croire à cela, finalement. Parce que Dieu dit que par ce processus-là, il nous fait héritier de ce royaume-là éternel, où il n'y aura plus jamais de corruption, plus de péché, plus de larmes, plus de deuil. Donc, si nous croyons à ce processus-là, c'est parce que nous sommes de son peuple, c'est parce que nous sommes héritiers. Et si Jésus nous sauve, donc finalement, ce n'est pas simplement pour nous sortir de nos problèmes sur la terre. Oui, le fait de devenir chrétien nous procure un grand nombre de bénédictions pendant notre vie sur terre. Mais ce n'est pas ça le plan ultime, là. C'est pour nous rendre citoyens de la nouvelle terre. Donc, c'est un plan pour l'éternité que Dieu a. Donc, si on ne croit pas à cela, si on ne croit pas qu'il y a quelque chose après la mort, finalement, c'est qu'on ne croit pas à la promesse de Dieu et c'est qu'on n'est pas sauvé. On n'est pas justifié. Mais on doit croire à cette promesse-là. Actuellement, le seul qui est déjà en chair et en os citoyen du royaume des cieux, c'est Jésus. Il est le seul qui a été ressuscité et à qui Dieu lui a donné le nouveau corps glorifié, un corps de chair, mais aussi un corps spirituel, immortel, incorruptible. Et c'est ce qui nous attend, chacun d'entre nous. Mais Dieu nous demande de le croire sur parole. On n'a pas vu personne d'autre qui a passé par ce processus de résurrection. D'ailleurs, on n'a même pas vu Jésus de nos propres yeux, ressuscité. Mais Jésus a dit à Thomas, son disciple, qui était prompt à douter, il dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Donc, on est heureux si on croit, même si on n'a pas vu le Seigneur Jésus. C'est ce que Dieu veut de nous. Et sa promesse est clairement dite à plusieurs reprises. On lit dans 1 Thessaloniciens 4, « Le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus, a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel. Les morts en Christ, donc nos bien-aimés qui sont morts, ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, on espère qu'il va revenir de notre vivant, mais nous serons avec eux, avec ceux qui sont ressuscités, nous serons enlevés ensemble dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Dans 1 Corinthiens 15, on lit, « Nous ne mourrons pas tous. » C'est sûr que lorsque Jésus va revenir, il va y avoir beaucoup de chrétiens sur la terre qui ne seront pas décédés. Et tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera. Les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons changés. Nos corps seront changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite dans l'Ancien Testament. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est dit à plusieurs reprises, mais dont dans Ésaïe 25, il dit « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. » L'Éternel l'a promis, ça va s'accomplir. Et la preuve que Dieu va nous ressusciter un jour, qu'il en a la puissance, c'est qu'il l'a fait en son Fils. Donc, si on croit vraiment en Jésus, c'est qu'on croit qu'il est mort et ressuscité pour nous, mais qu'il est bel et bien vivant présentement, qu'il est notre Seigneur, notre bien-aimé. Et comme Mauricio l'a dit, qu'il est même parmi nous. On ne peut pas le toucher, là, encore, un jour ça va venir, mais il est présent parmi nous, jusqu'à la fin du monde. En conclusion, pourquoi est-ce que c'est si important d'être justifié? On en parle souvent, Paul insiste là-dessus là, dans la lettre aux Romains. Pourquoi c'est si important d'être trouvé juste devant Dieu? Parce qu'aucun injuste n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Présentement, sur la terre, il y a un mélange là, de gens qui sont déclarés justes et de gens qui ne le sont pas. Mais sur la nouvelle terre, il n'y aura plus jamais ce mélange. Ce sera uniquement des gens déclarés justes, des gens dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Comment être justifié? En croyant sincèrement en la promesse de Dieu, sans douter. Et croyez-vous que Jésus est mort pour vos péchés? Si vous vous arrêtez pour réfléchir, êtes-vous convaincu de cela pour vrai, là, sincèrement? Croyez-vous que Jésus est ressuscité, qu'il est bel et bien vivant, qu'il est roi? Croyez-vous que si vous deviez mourir là, avant que Jésus revienne, mais qu'un jour vous allez ressusciter, un jour Dieu, selon sa promesse, va vous ramener à la vie, va vous redonner un corps. Faites-vous partie de la descendance d'Abraham? Êtes-vous un enfant de Dieu? Je ne sais pas, peut-être que ce matin, vous êtes dans une situation où vous n'avez jamais déclaré ouvertement que vous croyez en Jésus. Est-ce que quelqu'un même veut en faire la signification? Quelqu'un veut lever la main pour dire, finalement, je crois que Jésus est mon sauveur. Amen. On va prier pour toi. Jacqueline, on va prier pour toi aussi. Jean-Daniel, prions tout de suite. Merci, Seigneur Dieu, d'appeler des gens de toute nation, de tout arrière-plan. Merci de ne pas considérer nos péchés lorsque nous avons foi en tes promesses. Tu ne regardes plus l'horreur de nos péchés, le déshonneur que nous t'avons causé. Et tu nous sauves, tu nous rends juste gratuitement. Merci, Seigneur, pour le si grand prix que tu as payé par la vie de ton Fils Jésus. Nous croyons, Seigneur, à tes promesses. Merci pour les frères et sœurs qui signalent par cette main levée qu'ils croient en toi. Tu vois leur cœur et révèle-toi à eux de plus en plus qu'ils te connaissent vraiment comme leur Dieu, leur Sauveur. Seigneur Jésus, manifeste ta présence dans chacun d'eux. Accorde-leur l'assurance qu'ils sont des enfants de Dieu. Et selon ta promesse, remplis-les de ton Saint-Esprit jusqu'à la fin. Amen. Je vais conclure par Apocalypse 21, qui nous donne une image de la fin des temps ou sur cette nouvelle terre. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'y était plus. Et je vis descendre d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Dieu sera lui-même avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus jamais de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Amen.